Dimanche, jour de Pentecôte, nous aurons un peu moins facilité de parler de la Pentecôte. Parce qu'il y aura des absents, bien sûr, mais il y aura surtout la présence des enfants. Et je pense qu'il faut toujours se faire tout à tous. Et à cause des enfants, on adapte son message, pas l'évangile, mais la façon de le dire et ce que nous disons. On l'adapte aux enfants. Alors aujourd'hui, on va parler de la Pentecôte. Et j'aimerais faire deux lectures du Nouveau Testament dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, verset 5. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine dans votre maison, votre travail, votre santé, l'Église. Et je souhaite que vous soyez renouvelés ce matin par l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, Jean, chapitre 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà le péché. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Et il faut rester dans l'Église, dans ce côté pratique, terre à terre peut-être. On va lire 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 7. On n'en parlera pas beaucoup ce matin, mais je voudrais vous dire quelques mots sur les dons spirituels. 2 Corinthiens 12, verset... Non, 1 Corinthiens. Il ne faut pas se tromper. 1 Corinthiens 12, verset 7. La manifestation de l'Esprit, du Saint-Esprit, est donnée pour l'utilité commune, pour le bien de toute l'Assemblée. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, un autre la foi par le même esprit, un autre le don des guérisons par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Bénis-moi ce matin, Seigneur, et ce que je vais dire et l'assemblée qui va recevoir, que la bénédiction nous accompagne aujourd'hui et demain et dans la suite des temps. Amen. Nous avons parlé cette semaine de l'ascension. L'ascension, c'est il est monté vers son Père. Mais comment peut-il monter puisqu'il est toujours le plus haut? Il est monté, dit l'apôtre Paul, parce qu'il est descendu. Il est descendu tout en bas, dans les régions inférieures. Le mot « enfer » vient de « région inférieure ». Mais ce n'est pas ce qu'on pense. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre, et ces régions, c'est notre vie. Voilà où il est descendu. Et il est remonté. C'est le même. Il a connu l'en bas, il connaît l'en haut. Parce qu'il veut remplir tout, le bas et le haut. Il veut remplir toutes choses. Partout, il veut mettre son règne. Partout, il veut mettre une surveillance. Il veut mettre sa présence. Comme disait David dans le psaume 139, « Où irai-je ? Loin de ta face, si je vais au ciel, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Tu es partout, il remplit tout. Ne craignez pas les jours difficiles que certains traversent aujourd'hui. Le Seigneur est là avec vous, dans vos maisons, dans vos familles. » Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action. Saint-Esprit est Dieu, le Christ est Dieu, le Père est Dieu. Mais ce Saint-Esprit, d'ailleurs, chez les Hébreux, ils l'ont appelé « ruach », le souffle, le vent. Saint-Esprit, c'est Dieu en mouvement, en action, qui agit, qui donne la vie. Et quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ils ont entendu comme un vent impétueux. C'est ça qui a réveillé Jérusalem. Ce n'était pas leur langue, ce n'était pas ça. C'était ce souffle qu'ils ont entendu dans la maison, et c'était le souffle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Amen. Par son Esprit. Dieu aurait pu se contenter de nous envoyer du ciel de bonnes pensées. Il aurait pu se contenter de nous donner la force d'accomplir ce qui est bien. Eh bien, il aurait pu aussi nous donner la purification de nos corps, de nos cœurs, au moment de la mort, sur notre lit de mort. Et voilà, c'était réglé. Non. Par amour pour nous, il a voulu entrer dans notre âme dès le commencement de notre vie chrétienne. Il a voulu partager toute notre vie. Il a voulu travailler notre vie, la recoudre, la raccommoder, l'embellir avec notre participation tout au long de nos années. Voilà, il ne s'est pas contenté d'un petit lavage de voiture, un lavage de cœur au dernier moment. Il a travaillé avec nous tous les jours, tous les dimanches, dans la vie de famille, partout où nous sommes. Il habite en nous, personnellement, présent, pour garder notre maison, notre cœur, garder notre chemin. Et voilà que notre corps devient son corps. Nous sommes les membres du Christ. Et voilà que notre corps devient son temple. Il habite. Quelle vérité redoutable! Ma santé, mes paroles, mes pensées, c'est son temple. C'est ce que je vis avec lui. Tout ce que je vis, le Christ est là par son Saint-Esprit. Comment pourrais-je pécher quand je sais que le Saint-Esprit est si intimement en moi, en vous? Comment pourrions-nous nous laisser aller à des colères, à des impuretés, à des mensonges, puisque le Saint-Esprit de Dieu est continuellement en nous? Si je garde dans mon cœur ce que le Saint-Esprit refuse, alors je chasse le Saint-Esprit, je le mets hors de ma maison, je l'attriste, je pêche contre l'Esprit, je me perds. Je me condamne. C'est ça la vérité. Mais je crains de le perdre. Et le fait de craindre de perdre le Saint-Esprit, cela me garde. Quand on n'a pas la crainte de rien, je pense qu'on fait beaucoup de bêtises, par parole, par... je ne sais pas. Mais la crainte nous permet de nous garder. Et en plus, sa présence en nous nous garde. Et dans mes épreuves, j'appelle Dieu et le Saint-Esprit priera en moi, pour moi. Il priera avec moi. Il priera comme moi. Et grâce au Saint-Esprit, je n'abandonnerai pas le Seigneur. Si nous sommes attachés au Seigneur, c'est grâce au Saint-Esprit, grâce à sa présence fidèle. Le Saint-Esprit en nous, c'est le commencement de la nouvelle création en nous. Il tisse notre caractère de chrétien, notre bonne humeur, notre joie, notre bonté, notre faculté de pardonner, de respecter l'Église. Tout ça, c'est un tissage du Saint-Esprit. Il commence la deuxième création en moi, le Saint-Esprit. Et puis, ce même Esprit qui est en moi me ressuscitera au dernier jour. Le Saint-Esprit agit dans notre vie. Quand il est venu rencontrer ses apôtres le soir de Pâques, il leur a montré ses mains et son côté. Vous vous rappelez? Et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. C'est intéressant. Ça nous montre que nous recevons le Saint-Esprit grâce à son sacrifice, grâce à ses souffrances. On ne peut pas venir au Saint-Esprit sans la croix, sans la conversion. On ne peut pas venir au Saint-Esprit sans la résurrection de Jésus, sans l'ascension de Jésus, sans la prière de Jésus, sans la glorification de Jésus. Jésus disait, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu parce que le Fils de l'homme n'a pas été glorifié. Aujourd'hui, il est glorifié. Il est tout en haut et grâce à lui, parce qu'il prie pour moi jour et nuit et pour vous, nous recevons le Saint-Esprit. Amen. Autant que nous lui donnons la place. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Les apôtres étaient un peu tristes. Si je ne pars pas, il faut que je fasse là-haut ce qui me revient et que je vous l'envoie. Et le Saint-Esprit met dans l'Église des dons, des grâces pour former son Église, pour protéger son Église. C'est les dons du Saint-Esprit. Il met en nous des dons meilleurs que ce que le monde propose. Mais toutefois, ces dons disparaîtront. C'est encore provisoire. Les langues cesseront, les prophéties prendront fin. Je connais en partie. Mais tout ça, c'est important pour le temps de ce passage difficile de la terre. L'apôtre Paul, il dit bien dans l'épître à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, un esprit de force. Je crois que le Saint-Esprit communique à notre faiblesse naturelle quelque chose qui vient de la puissance de Dieu. Ce n'est pas une force pour impressionner les autres. Ceux qui veulent impressionner ont raté leur virage. C'est une force pour résister au découragement, résister aux tentations. L'apôtre Paul, il écrit dans cette même lettre à Timothée, « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » C'est dur. Quand on est abandonné par des amis chrétiens, pasteurs, missionnaires, tous ceux qui sont en Asie, en Turquie, je dirais, m'ont abandonné. Alors il avait besoin que le Saint-Esprit lui donne la joie du service, la paix dans la souffrance, bref, une force. Je pense à Élie, le prophète, qui lui aussi a été abandonné. Il disait un jour, « Je suis resté moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. » Mais le Seigneur lui a parlé, et lui a donné l'esprit de la force, en lui disant, « Va, reprends ton chemin par le désert. » Pas facile, le désert. Pas en TGV. Hein. « Reprends ton chemin par le désert. » Ça veut dire, « Tiens tes engagements, tiens ta mission, n'abandonne pas. Tu es tout seul, mais je suis là, et je te donne une force d'encouragement. Amen. » Dieu nous a donné un esprit de force. Amen. Il est dit dans l'Évangile, « Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout quand le Fils de Dieu paraîtra. » Je pense que nous avons besoin dans notre temps de cet esprit de force pour rester debout et ferme dans notre prière, notre fidélité à l'Église, pour rester ferme dans l'engagement de notre baptême. Mais le Saint-Esprit est un esprit qui donne de la force, pas musculaire, hein, on n'est pas Samson. Il nous donne la force de nous dégager de l'emprise du monde. Il nous donne la force de nous désengager quand on sent que le combat que nous menons n'est pas le bon combat. C'est un combat du monde. C'est un combat quasiment perdu d'avance. Le Seigneur nous donne la force de nous désengager, de renoncer à certains engagements qui ne mènent à rien. Il faut cette force devant la séduction aujourd'hui, devant la puissance du péché qui rôde, qui s'introduit partout. L'apôtre Paul dit, faites mourir par le Saint-Esprit les actions, les mauvaises actions. C'est-à-dire, comptez sur le Saint-Esprit. Demandez au Seigneur le Saint-Esprit de force et faites mourir, faites disparaître les mauvaises impressions, les exagérations, les mensonges. Tout ce qui vient du malin, faites disparaître cela parce que vous en avez la force. Si vous restez faible, c'est parce que vous voulez rester dans votre bourbier. Soyons forts. Amen. Et ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de sagesse et de charité. Dieu nous donne d'aimer d'une façon nouvelle comme le Christ a aimé. C'est un don. Il nous donne d'aimer d'une façon attentive, rassurante. Il ne faut pas débiter des versets ou crier. Il faut être attentif. Il faut être proche des aînés, proche des malades, proche des enfants, des familles qui souffrent. Vous savez qu'il est dit dans la Bible, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais il dit ça à qui? Il dit ça aussi aux églises. Et quand la charité dans une église se refroidit, il y a forcément des conflits. Les plus grands problèmes d'aujourd'hui des églises, ce sont les conflits. On se refroidit, donc on ne pardonne pas, on se trahit. Il y a un manque de confiance, il y a un désengagement. On faisait, on ne fait plus. On avait dit oui, maintenant on dit non. Alors, devant cette charité refroidie, l'Église, elle a du mal à avancer. La charité se refroidira, mais le Seigneur dit, je vous ai donné un esprit d'amour capable de passer par-dessus toutes les contrariétés et d'aimer comme le Christ a aimé. Amen. Vous savez, on ne construira pas des associations mondiales de charité. Je crois que les temps sont plutôt très sérieux et nous dirigent vers la guerre. Mais je pense que nous pouvons exercer cette charité de Jésus dans les relations personnelles. Ne voyons pas trop grand, on n'est pas là pour embrasser l'univers. Si à côté de vous, quelqu'un a soif, donne-lui à boire. C'est ce que Jésus dit. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Pas une multinationale, simplement des frères et sœurs qui étaient là, avec un esprit de charité. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Il fait du bien. Il sait réconforter. Il sait ne pas choquer, ne pas ébranler les autres. Il sait se retenir. C'est un esprit de force qui se retient pour faire place à l'autre. Et puis, un esprit de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Le Saint-Esprit nous donne de la prudence dans les situations compliquées, familiales, professionnelles, financières. Il nous donne de l'intelligence du cœur. Il nous donne d'être modérés, pas nous emballer, pas parler trop vite. Celui qui parle vite ne manque pas de péché. Il nous donne du bon sens dans nos affaires, dans nos relations. Il nous donne de la sobriété, ne pas vouloir gagner le monde, ne pas vouloir tout voir, tout comprendre. Le Saint-Esprit nous donne de la simplicité. Il nous donne une intelligence selon le cœur de Dieu. Et si Dieu nous donne ces cordages qui tiennent l'Église, que chacun peut les avoir, ne les cassons pas. C'est comme ça que l'Église continuera comme une armée sous la bannière de Jésus-Christ. Et puis, esprit d'amour, je vais plutôt dire le Saint-Esprit qui donne l'amour, le Saint-Esprit qui donne la sagesse, le Saint-Esprit qui donne la force. Voilà comment il faut comprendre. Et puis il y a, nous l'avons lu dans Corinthiens 12, des dons, des charismes, des grâces. Des grâces parfois pour un temps. C'est jamais forcément à demeure, mais ce sont des grâces pour nous permettre d'avancer et de protéger l'Église. Je vais en citer que deux. Le discernement des esprits. Parce qu'il y a aujourd'hui un danger. Les esprits malins imitent les œuvres de Dieu. Le diable imite Dieu. C'est un menteur. Tout ce qu'il dit, c'est mensonge. Voilà, on n'en parle plus. Mais c'est un menteur et ces miracles de mensonge séduisent les élus aujourd'hui. Il nous faut du discernement. Il y a des faux miracles. Il y a un faux évangile. Et tout ce qui parle de Dieu n'est pas forcément bien. Voilà. Mais Dieu ne laisse pas son Église toute seule dans cette bagarre. Le Seigneur l'accompagne parce que il y a de plus en plus d'esprits séducteurs. Les démons sont sortis pour séduire l'Église de Jésus. Alors il faut un discernement. Tout le monde n'a pas ce don. Mais tout le monde peut avoir du discernement en écoutant les Écritures, en écoutant le Seigneur parler par le Saint-Esprit. Discerner, c'est voir à travers. C'est ce témoignage intérieur qui dit attention, J'ai déjà expérimenté ce don-là, pas tous les jours. Quand je prends ma purée, je n'ai pas un discernement pour savoir si elle est chaude ou froide. Mais souvent dans mon ministère, j'ai été averti, prévenu, comme une sonnette d'alarme, en disant « Attention, il y a du faux ». Je pense à Paul qui était en mission, et vous savez qu'un jour, il a été suivi par une femme qui avait un esprit de python, un esprit pour deviner, dans la ville de Philippe, en Grèce. Et puis pendant des jours et des jours, il faut faire attention à tous ceux qui nous fatiguent. Pendant des jours et des jours, cette femme, elle criait, ces hommes vous annoncent la voie du salut, ces hommes vous annoncent la voie du salut, ces hommes vous annoncent la voie du salut. C'est pas faux. Mais on n'a pas besoin d'être aidé par des gens possédés. Les démons disaient à Jésus, « Je sais qui tu es, le Fils de Dieu. » Ils parlaient mieux que les apôtres. Mais Jésus leur disait qu'ils partent, il les chassait par sa puissance. Donc l'apôtre Paul ne s'est pas laissé séduire par cette femme bruyante, agitée, qui disait à tous ses pas, tous ses voyages, « Ces hommes vous annoncent, ces hommes vous annoncent. » Il ne s'est pas laissé séduire, il a discerné par le Saint-Esprit, il a dit « Cette femme, elle a un démon. » C'est pourquoi elle trouble le culte, c'est pourquoi elle trouble l'évangélisation, c'est pourquoi elle trouble ma parole, mon ministère. Et il a chassé le démon. Il n'est pas brutal, l'apôtre Paul. Cette femme, elle s'est retrouvée au chômage, c'est tout. Le démon était parti et puis elle n'a pas exercé un travail qui rapporte. Mais je vais vous dire, le Saint-Esprit, quand il est dans le cœur des hommes, des femmes chrétiens, il prie en nous. Il prie pour ceux qui nous entourent. Il prie avec des soupirs inexprimables. Autrement dit, il prie au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous imaginons. Pendant que je vous parle là, le Saint-Esprit en vous, en moi, prie. Peut-être pour vos enfants, pour moi, je ne sais pas. Il prie. Et puis, il prie aussi avec une langue, pour ceux qui parlent en langue. Une véritable langue, avec un verbe, des compléments, des articles. C'est une langue, avec peut-être des centaines de mots. Il prie avec cette langue que les apôtres avaient reçue à la Pentecôte, cette langue qui nous échappe. On ne comprend pas. C'est un code secret entre Dieu et nous. Mais on dit des mystères, peut-être sur les besoins de l'Église, ou peut-être des mystères sur nous-mêmes, sur nos enfants, notre avenir, on ne sait pas. Mais c'est une langue réelle. Au début de mon ministère, j'essayais de repérer des mots. Il n'y avait pas qu'un mot, « pa, 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 pa ». Je repérais des mots. Je me suis dit ça. Et en plus, la Bible dit la diversité des langues. Vous en aurez 10, 20, 30. Moi qui ai du mal à apprendre une langue dans ma jeunesse, voilà que je parle plusieurs langues. Mais ces langues-là sont des prières secrètes qui disent des vérités que vous ne connaissez pas et que Dieu connaît. Et si nous les disons, Dieu est d'accord, puisque c'est l'Esprit Saint, et Dieu répond. Ce n'est pas une langue pour prêcher, pour parler aux autres. C'est une langue pour parler à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et Paul dit, ça c'est un don privé. On ne remplit pas l'Église avec, on ne remplit pas les cultes. C'est dans votre cœur. En vous, vous priez, en vous, sans envahir le culte. Sinon, je crois que nous passons à côté d'une bénédiction à Rennes. Amen. Ce don des langues, il est donné sous le contrôle de celui qui le reçoit. On est maître de notre don. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et ce don, il est donné sous le contrôle de l'assemblée et du ministère. Quand ça déraille complètement, il faut dire non. Frère, tu vas vers une catastrophe avec Dieu. Il faut dire non. Non. Ressaisis-toi, remets-toi devant Dieu. Le but essentiel du Saint-Esprit, ce n'est pas d'en mettre plein la vue aux gens. C'est une communion avec le Père et une communion avec l'Église. On prie pour l'Église, on sert, on édifie l'Église. Le but essentiel, c'est de donner l'amour, la force et la sagesse. L'apôtre Paul n'y va pas par quatre chemins. S'il était là, à Rennes, je pense qu'il y a des choses qu'il nous dirait très franchement et très vertement. Il dit « Si tu as même le don jusqu'à déplacer des montagnes, et si tu as la charité jusqu'à donner ton corps pour être brûlé, si tu n'as pas la charité, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, tu es une cymbale qui retentit. » Paul dit, si j'avais le don des langues et des prophéties, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cela ne me sert à rien. Paul rabaisse tout ce qui est sans amour, tout ce qui blesse l'Église, tout ce qui n'est pas soumis au gouvernement de l'Église. Il rabaisse en disant, ça ne sert à rien. C'est du désordre. Celui qui aurait un don sans vivre pour le Seigneur, dans le respect de l'Église et de ses cultes, celui-là ne ferait aucune impression sur personne. Si, il ferait une impression. Il ferait tomber des gens. Et là, il faut rendre des comptes pour l'éternité. Il découragerait, il scandaliserait. Je pense qu'il faut aller avec intelligence un peu plus loin que les dons spirituels. Il faut savoir que les dons, c'est pour aimer, édifier, construire, encourager. Si on n'encourage pas, si on n'édifie pas, ça, c'est contre nous. Ça va ? Alléluia ! Le Saint-Esprit ne nous enlève jamais la maîtrise de nous-mêmes. Et ceux qui ont des frénésies parfois dans le Saint-Esprit, ils ressemblent, disaient les hommes d'Église autrefois, ils ressemblent aux démons qui s'agitaient devant Jésus. C'est un esprit de calme et de confiance que Dieu nous a donné. Sinon, nous sommes en contestation avec Dieu. Nous contestons ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit que tout se fasse avec ordre et bienséance. Parfois, des gens m'ont dit, mais c'est plus fort que moi. C'est mauvais, ça. Le Saint-Esprit m'oblige. Je dis que ces gens-là ne connaissent pas le Saint-Esprit et ils ne connaissent pas la Bible qui dit que tout se fasse avec ordre et bienséance. Ça voudrait dire que le Saint-Esprit est divisé contre lui-même s'il poussait des gens à des excentricités. Il serait divisé contre lui-même, il pécherait contre lui-même. Dans les cultes, il faut se soucier du résultat sur les autres. Il faut se soucier si dans l'Église on reste en ordre, dans la joie du culte, dans l'édification, dans le bonheur d'être ensemble. Je le répète, dans les cultes, il faut que les dons soient exercés avec l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse, de force. Force, ça ne veut pas dire crier fort. Force, ça veut dire fort contre toi-même. force contre tes tendances charnelles. Voilà l'Église, comment elle va démarrer. Il faut toujours penser au bien-être de l'autre, surtout quand il y a des cultes publics comme nous avons. Il y a du désordre, il y a de l'égarement d'esprit quand on n'écoute plus le ministère de la parole et qu'on n'écoute plus la parole de Dieu dans ce domaine. Il y a un désordre. Et tous les hommes d'église des temps passés disaient que c'était toujours la fin du réveil. Ce n'est pas le commencement, c'est la fin du réveil. Charles Wesley, quand il a connu des choses extraordinaires, en Angleterre, en Amérique, et quand il a vu arriver les premiers frénétiques, il a dit « Arrêtez, c'est la fin du réveil, c'est fini. Après, on ne rattrape plus rien. » Donc il faut un enseignement, une discipline, sinon nous allons pécher contre le Saint-Esprit. Je le dis avec sérieux devant Dieu. Nous allons résister à l'ordre que Dieu a établi. Et Dieu va se lever dans sa colère, un jour ou l'autre. Amen. Bien sûr, il y a une période d'enfance où on est un peu des enfants, un petit peu tout fou. On parle comme un enfant, on raisonne comme un enfant, mais l'enfant doit apprendre et faire disparaître ce qui était de l'enfance spirituelle pour devenir un homme mûr, solide. Paul dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant les dons spirituels. Je ne veux pas pour que vous ne vous engagiez pas sur des frénésies qui ne seraient que du diable. Il faut que notre message soit clair pour l'Église. » Nous sommes en travail pour édifier. C'est difficile de construire une maison. Parfois, ça bouge un peu, il y a des petits effondrements, mais il faut toujours, toujours édifier. Ne jamais casser, jamais démolir une réunion, jamais briser un élan. Il faut toujours aller pour le bien de l'autre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous me suivez toujours ? Que Dieu nous donne son Saint-Esprit. Si vous saviez tout ce que je demande au Saint-Esprit. Mais je ne prie pas sur les toits, je n'envahis pas l'Église avec, je prie dans mon âme, dans le secret de mon cœur. Pas pour faire des choses d'hurlu-berlu, mais pour être un serviteur fidèle jusqu'au bout. Amen. Prions Dieu ensemble. Merci de nous tracer le chemin bien clair, parce que nous sommes parfois troublés par les événements du monde et nous voulons faire plus, plus que ta parole. Et nous sortons du chemin et nous nous égarons. Et l'Église ne retrouve plus le chemin. Et l'Église est défaite et démoralisée. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce qui n'a pas été pour construire, tout ce qui a servi à notre propre jouissance. Pardonne-nous, notre esprit oublieux, distrait, encore enfant. Pardonne-nous, nous n'avons pas le droit de rester enfant. Tu veux que nous soyons des hommes mûrs, à l'image de Jésus. Bénis ton Église ce matin, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Amen. Esprit d'amour, esprit de sagesse, esprit de force. Amen.